RFI, 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Le journal avec Xavier Besson. Bonjour Xavier.
Bonjour Marion, bonjour à tous. Et nous sommes ce matin à Walikale et à Kinshasa, la République démocratique du Congo. Walikale où, d'après nos informations, les rebelles M23 étaient toujours présents hier soir. Le groupe armé soutenu par le Rwanda avait pourtant annoncé son retrait de cette localité. Tandis qu'à Kinshasa débutent aujourd'hui des consultations en vue d'élargir le gouvernement, pourquoi pas vers un gouvernement d'union nationale. Mais les principaux opposants sont contre, nous expliquera notre correspondant. Dans ce journal également, le Cameroun et le RDPC, le parti au pouvoir qui fête aujourd'hui ses 40 ans. La Centrafrique et l'opposant Anicet Georges Dologuele qui dénonce une atteinte à la démocratie après que son rassemblement politique a été écourté hier par les forces de l'ordre. Et puis reportage en Afrique du Sud, notre correspondant à Johannesburg a pu se rendre dans le laboratoire de recherche génétique de l'université de Witwatersrand. Nous vivons des moments très difficiles à Walikale, nous confie ce matin un habitant de cette localité de la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Walikale centre, tombé entre les mains des rebelles du M23 en milieu de semaine dernière, mais dont le groupe armé avait dit avant-hier se retirer pour, je cite, favoriser les conditions propices au dialogue avec les autorités de Kinshasa. Sur place, le quotidien, lui, est rythmé par de nombreux problèmes, nous raconte cet habitant qui garde l'anonymat pour des raisons de sécurité.
Présentement, nous vivons des conditions très compliquées, vu l'afflux de gens, l'afflux de réfugiés qui viennent de partout et les autres qui sont réfugiés dans des forêts. Nous sommes séparés de nos familles. Lorsqu'il y a eu des bandades, il y a des familles qui ont perdu les enfants, il y a des enfants qui se sont vus seuls, sans parents. C'est ça la situation que nous traversons. Mais sur les places sanitaires, nous avons du mal à accéder à l'eau potable. C'est trop alarmant. Les routes sont dévastées, les maisons sont pillées, les boutiques ont été pillées partout. Les populations vivent des moments très, très difficiles ici à Walikale. Il y a la terreur qui s'installe chaque jour. Et nous avons appris également que les rebelles ont signé un communiqué disant qu'ils devaient se retirer, mais nous ne voyons pas vraiment ce signal, nous ne voyons pas vraiment des signaux de retrait. Vraiment, nous vivons des moments très, très compliqués dans la cité de Walikale.
Des propos recueillis par Guillaume Thibault. Sachez que de son côté, la présidence angolaise fait savoir qu'elle se met en retrait de ses efforts de médiation autour de ce conflit dans l'Est congolais et qu'elle va chercher un nouveau médiateur. Luanda, qui avait annoncé des négociations directes entre les autorités congolaises et le M23, elles auraient dû se tenir la semaine dernière, mais n'ont jamais eu lieu. Les rebelles, finalement, ayant décidé de ne pas envoyer de délégation dans la capitale angolaise. Dans le même temps, à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi souhaite lui élargir sa base. Il a chargé un proche conseiller de mener des consultations à partir d'aujourd'hui en vue de former un gouvernement d'union nationale. Réunion déjà boycottée par la plupart des opposants, nous explique ce matin Pascal Moulégua à Kinshasa.
Les partis de l'opposant Moïse Katumbi est farouchement opposé à ces consultations. Hervé Diakiesse est son porte-parole.
Vous n'avez pas encore créé l'Union nationale et vous commencez déjà par mettre en place un gouvernement dit d'Union nationale. C'est une perte de temps. Nous nous inscrivons dans les cadres de consultations menées par les évêques.
Rodrigue Ramazani, secrétaire général du parti En Vol de Délis et Sanga, va dans le même sens.
Le pouvoir Tshisekedi doit ravaler son orgueil et placer l'intérêt du peuple au-dessus de calculs politiciens en adhérant à cette démarche porté par le père de l'Église. Seule voie crédible de restaurer la paix et la cohésion nationale.
Prince Epengue, le porte-parole de la coalition Lamuka de Martin Fayulu, évoque des consultations inopportunes et déplacées.
Ce n'est ni la voie, ni la solution, ni les cadres. Félix Tshisekedi a tapé à côté. La situation est dramatique. Le Congo est au bord du précipice. Est-ce que les consultations, en débauchant certains opposants aux esprits faibles, va résoudre cette crise?
Et pour Franklin Tshamala, secrétaire général du parti LGD de Matata Ponyo,
nous sommes par contre favorables aux initiatives qui vont dans le sens de favoriser la tenue du dialogue pour un consensus national, envie d'aborder les causes profondes qui nous plongent dans les conflits à l'est de notre pays notamment, tels que portés par les pères spirituels de la Cinco et de l'ECC.
Pour ces premiers jours, les consultations s'ouvrent avec la première ministre et la majorité au pouvoir. Pascal Moulégua, Kinshasa, RFI.
RFI, 8h35 à Kinshasa, même heure à Yaoundé, au Cameroun, où le RDPC, le parti du président Paul Biya, fête aujourd'hui ses 40 ans. Célébration dans un contexte d'année électorale, élection présidentielle prévue au mois d'octobre au Cameroun. Dans les statuts du parti, il est prévu que le chef d'État en soit le candidat. Et si Paul Biya ne s'est pas encore exprimé clairement sur une candidature ou non, le RDPC, lui, est déjà en ordre de marche dans un environnement politique qu'il domine très largement. À Yaoundé, la correspondance de Polycarpe Samba.
C'est à Bamenda, dans le nord-ouest anglophone du Cameroun, que naît le RDPC en 1985. Paul Biya est au pouvoir depuis 3 ans et a déjà eu affaire à 2 importantes crises politiques. La première avec son mentor, l'ancien président Amadou Ahidjo, qui en démissionnant de la présidence avait gardé la main à la tête de l'UNC, le parti unique d'alors. Quelques mois plus tard, en avril 1984, le pouvoir est ébranlé par une tentative de coup d'état qui finit par convaincre Paul Biya de créer sur les cendres de l'UNC une formation politique qui lui est toute dédiée. Le nouveau parti présidentiel, le RDPC, est né. En 1991, avec le retour au multipartisme, le RDPC qui était installé dans le confort du parti unique doit soudainement faire face à sa première compétition électorale. Le début de la décennie 90 est référencé sur le terrain politique par les années dites de braise. L'opposition pousse pour l'organisation d'une conférence nationale souveraine. Le RDPC plie, mais ne rompt pas. La conférence n'aura pas lieu. En octobre 1992, le président Paul Biya, dans un environnement politique tendu, est déclaré vainqueur de la première élection présidentielle pluraliste face à Ni John Frundi. Depuis cette année-là, le RDPC a travaillé à reconquérir la quasi-totalité des institutions au point de devenir un quasi-parti-État, avec ce que cela peut comporter d'inertie et d'immobilisme, selon certaines critiques des observateurs de la scène politique nationale. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI.
Il dénonce une atteinte à la démocratie en Centrafrique. C'est ce que dit l'opposant Anissé Georges Dologuélé après que les forces de l'ordre ont interrompu hier une réunion politique qu'il menait à Bégoua, c'est au nord de Bangui. Inacceptable pour celui qui est le président du parti Union pour le Renouveau Centrafricain, d'autant plus que la Centrafrique est en année électorale.
Nous avons prévu une réunion du parti à Bégoua. Ça s'est passé dans une concession parce que nous savons que les réunions dans les stades, dans des terrains de football, c'est des lieux publics. Et donc nous risquons d'être accusés de troubles à l'ordre public. À ce moment-là, il faut demander l'autorisation des autorités, de l'administration. Donc tout était fait de manière très légale. Il n'y avait aucun désordre. Et il restait juste ma prise de parole quand j'ai vu des mouvements de gendarmes. Et puis je vois des officiers venir me dire qu'ils ont reçu des instructions pour que j'interrompe la réunion. Je leur dis la réunion est presque finie. Laissez-moi 5-10 minutes, je parle à la population et puis on se disperse. Ah, non. Ils ont reçu des instructions pour venir arrêter. Je suis un citoyen, c'est une atteinte à la démocratie gravissime. Un parti qui ne fait pas des réunions tous les jours, qui veut en organiser une, on l'arrête. C'est contre ça que nous luttons.
L'opposant centrafricain Anissé Georges Dologuélé. Et notez que ce matin, la coalition d'opposition du Bloc républicain, dont l'URDC fait partie, apporte son soutien à Anissé Georges Dologuélé et rappelle qu'elle prévoit une manifestation à Bangui la semaine prochaine. Au Tchad, les avocats font la grève de la Cour suprême à partir d'aujourd'hui à N'Djamena. Le Conseil de l'Ordre des avocats dénonce notamment la multiplication de verdicts rendus sans jugement de la part de cette Cour suprême. Et le président du Conseil de l'Ordre explique qu'il souhaite en fait plus de contrôle sur les activités de la Cour. Maître Djérandji Laguerre-Dionro.
La colère des avocats vient de ce que la Cour suprême, non seulement dans cette affaire précise, mais dans bien d'autres affaires, viole allègrement les règles de procédure. Le collectif a saisi le Conseil de l'Ordre des avocats, a saisi également le garde des Sceaux. Nous avons estimé que c'est une situation très grave et il fallait dénoncer en tant qu'institution. Et donc, il faut que les autorités travaillent à redorer l'image de la justice. Malheureusement, avec des décisions comme ça rendues par la Cour suprême, des décisions sorties des poches ou des manches d'Europe, eh bien, nous estimons que c'est une entorse terrible à l'état de droit. Le barreau estime qu'il faut observer ce gel d'activité pendant 1 mois en espérant que les plus hautes autorités réagiront et prennent des décisions qui s'imposent.
Le président du Conseil de l'Ordre des avocats du Tchad, joint par Guillaume Thibault. Dans l'actualité des pays africains ce matin également, le Togo et l'opposition qui a tenu meeting hier à Lomé, rassemblement une nouvelle fois pour protester contre la nouvelle constitution adoptée l'an dernier et qui est vue par les opposants togolais comme un moyen pour le président Fornia Simbe de se maintenir au pouvoir. Enfin, comment fonctionne la recherche génétique, en particulier celle sur le génome des Africains, le patrimoine le plus diversifié de toutes les régions du monde. Sujet auquel RFI a choisi de s'intéresser ce matin à l'occasion d'un sommet qui s'est tenu en Afrique du Sud un peu plus tôt ce mois-ci. Et si le continent africain est de très loin des États-Unis et de l'Europe en matière de recherche génétique, l'Afrique du Sud fait partie des pays qui sont en pointe dans ce domaine en Afrique. Et notre correspondant Valentin Hugues a pu se rendre dans un laboratoire de l'université de Witwatersrand.
Tout commence avec quelques gouttes de sang conservées à moins 80 degrés dans un grand congélateur.
Je travaille sur la génétique de la population noire sud-africaine pour voir ce qui peut expliquer une réaction différente au traitement contre l'hypertension par rapport aux populations européennes ou asiatiques.
Pour répondre à ce genre de questions, il faut séquencer les gènes pour les lire dans le détail et les comparer à un gène de référence. Mekouda Nyamouba, doctorant à l'université de Witz, doit d'abord extraire l'ADN.
Ici, nous avons une machine automatisée très sophistiquée. On écrase les cellules et des billes magnétiques attirent l'ADN. C'est une technologie très moderne. On peut traiter plus d'échantillons. On gagne beaucoup de temps.
Une fois l'ADN extrait, il faut préparer le séquençage, amplification de l'ADN, récolte des données, configuration des machines, un processus d'environ une semaine.
Voilà mon séquençage. Chaque personne a un identifiant unique. Là, c'est une personne, ici une autre. Avec le séquençage, nous pouvons trouver la cause profonde du problème que nous examinons. En d'autres termes, une fois qu'on a la cause, on peut dire si une personne a cette mutation, elle sera plus susceptible d'être malade et donc faire de la prévention.
C'est aussi une pratique coûteuse. Plusieurs millions d'euros sont nécessaires pour faire fonctionner un laboratoire comme celui de Witz. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Et si le sujet vous intéresse, un grand article de Claire Bargelès est à lire sur RFI.fr, onglet Afrique. Il est 9h40 à Johannesburg.